Le journal d'Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus question d'attendre que la crise sanitaire empire. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h, avec à prévoir un durcissement radical des mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Tout sera décidé ce matin en Conseil de défense, après une journée de concertation des autorités sanitaires et des experts, des représentants politiques ainsi que des syndicats, précision de Stéphane Robert.
Les derniers chiffres de l'épidémie sont encore mauvais, des décès à l'hôpital et en EHPAD en augmentation. Les services de réanimation se remplissent très vite, il faut anticiper la vague de patient qui va arriver à l'hôpital, demande l'urgentiste Patrick Peloux ce matin.
Pour trouver une bonne nouvelle autour du Covid, il faut changer de continent après 3 mois de confinement. Melbourne en Australie arrive au bout de sa 2e vague, correspondance de Grégory Pless.
Aux États-Unis, alors que la campagne présidentielle bat son plein, de nouvelles manifestations violentes ont eu lieu hier soir à Philadelphie suite à la mort d'un Afro-Américain tué par la police lundi. Sébastien Paour est sur place.
Et puis un tapis rouge, une palme et un monde du cinéma qui retrouve le goût de la fête. Depuis hier, le Festival de Cannes reprend ses droits face au Covid-19 avec une sélection adaptée aux circonstances, expliquera Thierry Frémaux à la fin de ce journal. La propagation du Covid en France n'est pas sous contrôle et les derniers chiffres de Santé publique France sont de quoi convaincre le gouvernement, si ce n'était pas déjà le cas, que des mesures sanitaires renforcées sont bel et bien nécessaires. 288 morts à l'hôpital pour les dernières 24 heures, 235 en EHPAD sur les derniers 4 jours, 2900 malades en réanimation, la moitié des lits dans ces services sont remplis dans tout le pays et malheureusement, on est encore loin du pic. Les 15 jours à venir verront une progression exponentielle de l'épidémie selon les autorités sanitaire. Alors, quelle réponse l'État doit-il apporter en urgence? On le saura ce soir avec l'allocution d'Emmanuel Macron à 20h, après un premier conseil de défense à l'Élysée hier matin, puis des réunions à Matignon entre le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et les responsables des différentes forces politiques du pays. Stéphane Robert.
La réunion avec les représentants des forces politiques hier soir a offert l'occasion au Premier ministre et au ministre de la Santé de dresser un état des lieux de la situation sanitaire et elle est très inquiétante selon le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.
Il y a une réalité qui a été énoncée par le ministre de la Santé, c'est que d'ici le 11 novembre, nos hôpitaux seront saturés. Donc la situation est particulièrement grave, nos hôpitaux seront plus en capacité de soigner. La réalité, elle est celle-là.
Plus concrètement, l'exécutif a évalué les besoins en lits de réanimation à 10 000 d'ici le 11 novembre, alors qu'on dispose actuellement d'un peu moins de 7 000 places. Pour le reste, aucune piste n'a été évoquée, aucun scénario pour faire face à la situation. Il faudra attendre ce soir, a expliqué le président de l'Association des maires de France, François Barouin, pour en savoir plus sur ce que va décider le chef de l'État.
Le sentiment qu'on a, c'est qu'on va plutôt vers un confinement, que ça va durer quelques semaines et que le gouvernement essaie de trouver les moyens de préserver peut-être les écoles, les services publics et de maintenir un semblant de vie économique pour éviter une casse trop dure.
Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, estime quant à lui que si on en est arrivé à cette situation, c'est par un manque de prévoyance.
Clairement, on sent que le confinement généralisé au niveau national est sur la table. C'est rendu nécessaire, je crois, par le défaut d'anticipation cet été et par le fait que finalement il y a eu une sorte de triomphalisme à la sortie du premier confinement et un retard à l'allumage sur la généralisation du télétravail en particulier.
Emmanuel Macron va encore une fois examiner les différentes hypothèses en Conseil de défense ce matin et il annoncera sa décision dans la soirée. Tout semble cependant indiquer que le couvre-feu étendu à 54 départements il y a quelques jours ne suffit pas et qu'il faudra vraisemblablement se résoudre au reconfinement.
Stéphane Robert, pendant ce conseil de défense, il sera aussi question de l'organisation des hôpitaux qui sont de plus en plus sous tension avec l'augmentation continue du nombre de malades. Tirer les leçons de la première vague et anticiper les besoins, en particulier dans les services de réanimation en prévision des futures arrivées, c'est ce que demande notamment Patrick Peloux, le président de l'Association des médecins urgentistes de France.
On s'aperçoit que vraiment on rentre dans le véritable sujet de cette crise qui est le manque de lits d'hospitalisation en réanimation. Et c'est ça qui est inquiétant, mais on doit avoir des moyens dans les hôpitaux pour travailler. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut appeler à la mobilisation générale de à la fois des médecins retraités, de ceux qui ont un peu arrêté le métier, comme on dit, au pied du lit du malade, et qui sont dans des bureaux. Il faut que tout le monde revienne soigner des malades pour ouvrir un maximum de lits.
Patrick Pelloux, joint par Nabila Hamel, toujours à l'hôpital. À mesure que l'épidémie progresse et pèse sur les établissements et les personnels, la politique de dépistage à grande échelle du gouvernement commence à trouver ses limites. Aujourd'hui, toute hospitalisation, peu importe la raison, nécessite la réalisation d'un test PCR pour transférer le patient dans le bon service, isolé Covid ou non. À l'hôpital public Saint-Antoine à Paris, par exemple, Jean-Baptiste Krebs, cadre de santé et membre du collectif Interurgence, alerte sur la saturation des urgences de nuit, faute de résultats. Test.
Le labo est ouvert de 8h à 16h et que par défaut, moi, j'ai besoin d'un test, d'un résultat de test pour hospitaliser mon patient, qu'il soit positif ou négatif. C'est une certaine logique, hein, je ne vais pas mettre quelqu'un de positif dans un service négatif pour ne pas contaminer le service. Et inversement, je ne vais pas mettre quelqu'un de négatif dans un service positif, c'est une certaine logique. Mais la problématique, c'est qu'on ne se donne pas les moyens d'aller au fond du process et d'avoir des laboratoires qui fonctionnent H24, qui est une nécessité importante pour nous, parce que du coup, ça nous embolise les urgences. On va se retrouver avec 15-20 patients sur des brancards aux urgences. Alors, j'ai des lits disponibles, mais que je ne vais pas hospitaliser, donc ils vont rester sur un brancard, tout simplement parce que je n'ai pas de résultat de test PCR. Ça, c'est quelque chose qui est assez aberrant.
Jean-Baptiste Krebs, joint par Sarah Ders. Une autre solution pour de nombreux médecins serait l'utilisation de tests antigéniques plus rapides dans certaines conditions aux urgences. À l'heure actuelle, le dépistage de référence reste le test en laboratoire. En attendant que le couperet tombe, qu'on sache le choix qu'aura fait l'exécutif, qui aura, quoi qu'il arrive, des répercussions sur la vie économique et sociale. On sait déjà que le chômage partiel, dont le dispositif devait être revu à la baisse dimanche, devrait finalement rester au même niveau d'indemnisation au moins jusqu'au 31 décembre. C'est en tout cas ce qui a été précisé hier aux partenaires sociaux. Il permet d'indemniser les salariés à hauteur de 84% du salaire net avec 15% de reste à charge pour l'employeur. Alors que l'Europe fait face à sa deuxième vague de l'autre côté du globe, en revanche, une bonne nouvelle, un grand jour, Melbourne, la deuxième ville d'Australie, en est sortie de cette deuxième vague. Depuis cette nuit, les 5 millions d'habitants retrouve la liberté de mouvement. Après un confinement de 3 mois, ces derniers jours, aucun nouveau cas n'a été enregistré. À Sydney, la correspondance de Grégory Pless.
La lumière au bout du tunnel, c'est l'impression qui domine aujourd'hui à Melbourne, où on peut à nouveau, après 3 mois de confinement, sortir librement. Les cafés, les restaurants et la plupart des magasins ont également rouvert. Une nouvelle qui réjouit particulièrement Émilie, elle gère 3 boutiques de vêtements à travers la ville.
On est ravis d'ouvrir, tous nos magasins seront ouverts et on est très contents, ce sera comme si c'était Noël.
Thomas, lui, a quitté Marseille il y a 2 ans pour s'installer à Melbourne. Il a été marqué par ce confinement très strict, mais au final, il y voit un mal nécessaire.
Ça vaut le coup de faire ce confinement, oui, c'est difficile, mais c'est un sacrifice de plusieurs semaines qui permet de retrouver une vie normale et de maîtriser cette maladie.
Et pour célébrer sa liberté retrouvée, Thomas prévoit d'aller assister à la renaissance de sa ville d'adoption.
Je vais aller dans le centre-ville de Melbourne et j'ai envie juste d'aller voir ça, cette ambiance de résurrection.
L'épidémie de Covid-19 à Melbourne étant désormais sous contrôle, l'Australie semble pour l'instant sortie d'affaire, mais le gouvernement reste malgré tout prudent. Les frontières internationales qui sont fermées depuis le mois de mars pourraient le rester jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Aux États-Unis, à moins d'une semaine maintenant de la présidentielle, plus de 70 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté par correspondance. C'est bien plus qu'en 2016. Et face à Joe Biden, en tête dans les sondages et qui joue la carte de la campagne responsable en attaquant Donald Trump sur sa gestion de l'épidémie de coronavirus et en se faisant discret, le président américain lui multiplie les meetings et attaque encore ce matin les médias fake news. Covid, 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 ils n'ont que ce mot à la bouche, affirme-t-il. Pendant ce temps, un autre sujet s'invite dans la dernière ligne droite avant le scrutin, les inégalités raciales avec une deuxième nuit de manifestations et de violences à Philadelphie dans l'est du pays, suite à la mort d'un homme noir, Walter Wallace, tué par la police, c'était lundi après-midi dans les quartiers à majorité afro-américaine. Affrontement avec les forces de l'ordre, magasins vandalisés, voitures brûlées, non loin de là, la famille de la victime a donné sa version des faits et appelé au calme. Reportage à Philadelphie de Sébastien Paour.
I'm Walter William Wallace, father.
C'est d'abord le père de Walter Wallace qui prend la parole.
I mean, we're supposed to be united, not divided.
Les gens doivent rester unis et ne pas se diviser.
Well, I'm sending an SOS out.
Je lance un SOS. On ne vandalise pas cette ville. C'est tout ce que je veux.
That's all I need.
Sa femme vient ensuite rappeler ce que les images ont montré.
Yes, I was telling the police to stop. Don't shoot my son.
Qu'elle a demandé aux policiers de ne pas tirer sur son fils qui souffrait de problèmes mentaux et qu'elle appelait pour la troisième fois dans la même journée. Les policiers avaient sorti leurs pistolets alors qu'ils ne semblaient pas menacés par son fils, encore à distance. Il faut davantage les former pour l'avocat de la famille, Chiki Johnson.
It's an issue.
C'est un problème que cette ville doit résoudre. On donne à nos officiers de police un badge, une arme à feu, mais pas d'alternative à l'option
létale.
Devant les adultes, trois des neuf enfants de Walter Wallace et Samuel, pour rappeler l'un des messages scandés ici depuis deux jours et deux nuits, les vies des Noirs comptent.
Sébastien Paour, on en vient maintenant à ce nouvel épisode tendu dans les relations avec la Turquie. Ankara accuse ce matin Charlie Hebdo de propager son racisme culturel et sa haine suite à la publication aujourd'hui d'un dessin de Recep Tayyip Erdogan en une de son nouveau numéro. Le président turc est représenté en t-shirt et sous-vêtements en train de boire une bière et de soulever la jupe d'une femme voilée sans culotte. Il s'agit, selon la Turquie, du résultat du supposé programme anti-musulman d'Emmanuel Macron. Une critique déjà formulée ces derniers jours au milieu d'insultes et d'appels au boycott des produits français. Des dizaines de milliers de personnes d'ailleurs ont manifesté hier au Bangladesh contre la France et les représentations du prophète Mahomet. On note d'autres manifestations beaucoup plus petites en Syrie, dans la bande de Gaza ou en Libye. Dans le billet politique, juste après ce journal d'ailleurs, Frédéric Saïs se posera la question suivante. Assiste-t-on à la formation d'une opinion publique mondiale? Pour la réponse, rendez-vous à 8h16.
8h11. En attendant, Adrien Toffolet, la suite de votre journal. Retour en France au procès des attentats de janvier 2015. Deux journées éprouvantes viennent de s'achever avec l'interrogatoire du principal accusé.
Son nom, Ali Reza Polat, est associé à celui du terroriste islamiste de Montrouge et de l'hypercachère Hamedi Koulibaly. Il est poursuivi pour complicité de meurtre et association de malfaiteurs terroristes. Ali Reza Polat, un homme d'origine kurde, converti à l'islam, personnage incontrôlable, au verbe haut, et qui continue à clamer son innocence, Florence Turme.
En prison, Ali Reza Polat a fait l'objet d'un rapport d'évaluation du CAIR, le quartier de prévention de la radicalisation. Il ne relève aucun élément d'idéologie radicale, aucun risque de passage à l'acte lié à une radicalisation violente. Mais, détail intéressant, se demande à quel point le détenu n'a pas surjoué à outrance son image de délinquant. Et il continue à l'audience. « Quand vous sortirez, ce sera donc l'escroquerie ou les stupes ?» interroge un magistrat. « Ouais, c'est net », réplique l'accusé sans détour. Ses rêves de voyage arrachent même quelques sourires à la salle, l'Amérique du Sud, les Maldives ou un tour de la côte écossaise en Range Rover avec une bobo parisienne. Mais les liens sont anciens et profonds avec Hamedi Koulibaly. « Votre rôle important », souligne le président, à tel point que l'avocate d'Ali Reza Polat s'insurge contre un réquisitoire avant l'heure. Son nom apparaît à tous les stades de la procédure, avait noté l'accusation. Dans le box, Ali Reza Polat, son dossier à la main, reprend tous les détails de la téléphonie, les contacts avec les autres accusés qu'il apostrophe au passage pour l'avoir, dit-il, balancé. Le ton monte, la tension aussi, il admet être l'auteur de la liste découverte par les enquêteurs. On y trouve une Kalachnikov, des détonateurs, des munitions, selon lui l'équivalent d'un devis destiné à connaître les prix pour monter le braquage d'une banque et d'un fourgon blindé, comme si les rôles étaient soudain inversés entre le tueur de l'hypercachère et lui-même. Jamais, soutient l'accusé avec force, Hamedi Koulibaly ne m'a demandé de lui procurer des armes.
Florence Sturm, la cour va procéder aujourd'hui à une confrontation entre accusés, dernier moment de débat, avant les plaidoiries des parties civiles prévues demain. Dans ce contexte sanitaire et ce climat si particulier, voici une belle preuve que le monde de la culture peut résister à la crise et à la morosité. Depuis hier soir, le Festival de Cannes s'invite sur la croisette, en version revisitée bien sûr. Après avoir été reporté puis annulé comme de nombreux événements culturels, depuis mars, la 73e édition se tient finalement pendant 3 jours. Seuls 4 des 56 films de la sélection officielle seront projetés. Ce qui a demandé à Thierry Frémaux, le directeur général du festival, de faire des choix de circonstances. On l'écoute.
On a voulu alterner entre des films français, peut-être plus accessibles au public cannois. Le film qui fait l'ouverture d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad, qui est un film de prison, qui est un grand film humaniste dont je suis sûr qu'il va obtenir un succès absolument formidable, plus tard en salle. Le film des frères Podalydès, parce que c'est le film évidemment signé par Bruno, mais Denis, son frère, joue avec lui. Et c'est tout à fait formidable avec Sandrine Kiberlin. on termine par une comédie, et puis les deux autres films incarnent quelque chose d'un cinéma d'auteur, et d'auteur au féminin, avec un premier film d'une jeune géorgienne qui remporte un grand succès partout, parce que le Festival de Cannes et la sélection officielle, c'est ça, c'est montrer quelles sont les forces vives du cinéma mondial. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de film américain. Hélas, le film Disney Soul, le dessin animé Pixar, ne sortira pas en salle. Tout le monde le déplore, nous les premiers. Le film de Viggo Mortensen sortira bientôt, on espère dans les meilleures conditions. Donc voilà, il a fallu faire un choix.
Thierry Frémaux, le directeur général du Festival de Cannes, joint par Maïwenn Bordron. Interview à retrouver en longueur sur notre site franceculture.fr. Une seule palme d'or sera décernée cette année. Ce sera pour les courts-métrages demain après-midi. Le ciel sera voilé sur la Croisette, prévoit Météo France aujourd'hui. Il y aura de toute façon des nuages à peu près partout sur le pays, avec des averses au nord et en montagne. Le Pas-de-Calais sera en vigilance orange, puis inondation à partir de 10h ce matin jusqu'à 21h. Les températures sont proches des normales de saison, de 7 à 13 degrés ce matin, de 12 à 22 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Adrien Toffolet. Il est 8h16 sur France Culture.